Je vais donc passer la main également à Joachim. Je vais définir comme présentateur. Joachim Schopfel, donc, que l'on a invité à, en tant que grand témoin de ce webinaire, à donner son point de vue et son analyse sur la thématique que nous avons retenue, amplifiée de sa connaissance, bien sûr, sur la question. Joachim Schopfel est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille et consultant dans le domaine de l'information scientifique et technique. Il est directeur du FR de 2009 à 2012. Il a dirigé l'Atelier national de reproduction des thèses de 2012 à 2018. Il est membre du laboratoire Géricault et responsable de la première année du master information document. Titulaire d'une thèse en psychologie de l'Université d'Hambourg, il a travaillé de 1991 à 2008 à l'Institut de l'information scientifique et technique du CNRS. Ses projets de recherche et publications portent essentiellement sur l'évolution de la communication scientifique et des services et dispositifs de l'IST. Il est enfin consultant indépendant et partenaire du cabinet Ourouk à Paris. Joachim, je te laisse la parole.
Bien, bon, si je vois bien, bah, j'ai à peu près 3 minutes et je vais essayer.
Non, 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 s'il faut prendre 20 minutes,
Non.
tu prends 20 minutes et les discussions, on les continuera dans un forum après ou ultérieurement, il n'y a pas de souci.
En tout cas, Stéphane, merci beaucoup pour cette invitation et pour la proposition de faire le grand témoin. J'ai passé vraiment une matinée très très intéressante et je crois que bah, dans votre réseau, dans votre groupe de travail, ça va alimenter votre réflexion d'une manière très très féconde. J'ai essayé, à partir de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu ce matin, de faire un certain nombre de constats aussi par rapport à nos propres études, sachant que le data paper, nous et moi personnellement, ça nous intéresse d'une part parce qu'on en a déjà écrit pour nos propres données et d'autre part comme un objet, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau type de document qui émerge et bon, on le regarde comme une espèce qui arrive, qu'on ne connaissait pas. Donc on a regardé aussi sous l'aspect de la gestion des connaissances dans le cadre de l'ISCO. Voilà, bref. Quelques constats au préalable. Il y a effectivement un intérêt croissant par rapport à ce type de documents pour la gestion des données et pour les articles de données. Un intérêt qui est aussi bien politique. Donc, j'ai copié en bas le passage du plan national pour la science verte. Économique, les données ont une valeur économique et les articles de données également. Et un intérêt professionnel, la preuve cette matinée est scientifique pour nous, en tant que chercheurs dans le domaine. Il s'agit d'une réalité dynamique, c'était un type d'article relativement récent. Le nombre d'articles est en augmentation constante. Difficile à dire exactement combien il y en avait. Quand on a mené l'étude l'année dernière, bah, le minimum de ce qu'on peut dire, bah, c'est 11 000, 12 000 data papers. Mais en fait, relativement peu d'articles par rapport au nombre d'articles produits annuellement. Relativement peu de revues, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Et surtout, mais pas exclusivement, en sciences technologies, sciences médicales. Une grande diversité, c'est un autre constat, et la matinée a apporté des preuves pour ça. C'est qu'il y a une définition, il y a plus de définitions de ce que c'est. Information on the what, where, why, how, who of the data. Il y a une structure cœur qu'on a essayé d'analyser dans le cadre de l'ISCO. Et puis à partir de là, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas une vraie norme. Donc, on a entendu ce matin donc, des approches différentes par rapport aussi à certaines communautés autour d'une revue dans un domaine particulier. Je reviendrai là-dessus, sur cet aspect communautaire tout de suite. Et le dernier constat, c'est que oui, il y a disons un continuum entre ce qu'on décrit en fait dans le cadre de ce type de document sachant qu'il y a un large éventail de documents de données, il n'y a pas que les data papers, ça s'appelle de manière différente. Et donc, bon, on décrit quoi? Le contenant, le contenu, les deux, un jeu de données, et je passe sur l'aspect d'arborescence qui faisait l'objet de quelques commentaires et questions là, dans le chat. Une base de données, un dispositif d'acquisition, un traitement de données, un entrepôt de données, quelles données, comment on sélectionne les données. Donc, franchement, il y a une très grande diversité. Il y a aucun mouvement, je dirais, qu'on peut dire il va y avoir un consensus, va y avoir une convergence. Non. Non, et je crois que c'est lié tout simplement à la grande diversité des disciplines, des thématiques, des communautés, des équipements aussi. Donc, la question des données, il ne faut jamais les séparer complètement des équipements, des infrastructures, des méthodes. Voilà. Ensuite, il y a un certain nombre d'enjeux, et j'ai essayé de les noter en lien aussi avec ce qui a été dit. L'évaluation est un enjeu majeur et l'équipe de CyberGéo, avec son expérience, est un bon exemple. Quand on prend un peu de recul, quand on regarde ce qu'ils font aussi les autres, donc reste quand même la question, évaluer quoi? Les data papers, les données, le dépôt des données, ça veut dire les métadonnées et le fait d'être... déposer quelque part dans un environnement ouvert, accessible, évaluer comment, en double aveugle, donc la question de l'anonymat, difficile, mais aussi interroger aujourd'hui dans le cadre de la science ouverte, et évaluer pas les pairs, donc peer review, on l'a entendu, mais qui les pairs? Qui sont les pairs pour les dépôts de données? Est-ce que ce sont les ingénieurs? Est-ce que ce sont les professionnels de l'information? Ingénieurs de données, est-ce que ce sont les chercheurs eux-mêmes? Donc, la question est posée. Et puis, la discussion autour du travail, du fonctionnement de CyberGéo montre que c'est beaucoup plus ouvert que dans le cadre des revues scientifiques, entre guillemets, classiques. Et évaluer pourquoi? Pourquoi évaluer un data paper? Est-ce que c'est pour maintenir la qualité, la cohérence de la revue? Ou est-ce que c'est pour augmenter l'impact des données elles-mêmes? Et par qui? La question a été posée tout à l'heure, je trouvais ça une question extrêmement intéressante. Par qui? Pas seulement professionnels ou chercheurs, mais aussi par qui doit être proposé un data paper, uniquement par les auteurs, aussi par la communauté, par les usagers. La question, là, par rapport à l'évaluation, c'est que pourquoi ne pas laisser évaluer les données et les data papers aussi en aval, pas d'autres, pas les usagers. La normalisation, c'est un autre enjeu. Et il y a un certain nombre de choses de dites, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est intéressant dans le cadre aussi bien des data papers que des entrepôts, c'est la question... des métadonnées disciplinaires ou génériques et la possibilité, et on l'a vu notamment dans le cadre de la base de données là en économie, histoire, la possibilité de fusionner ensemble. Quand on regarde les grands entrepôts de données, on voit qu'ils sont capables de supporter, entre guillemets, aussi bien les métadonnées génériques et disciplinaires. Question, quel format? Donc, j'ai vu sur les slides DataSite, EDI, et puis il y en a beaucoup d'autres disciplinaires, pas génériques. La confiance. En anglais, trustworthiness, c'est un enjeu et les data papers jouent un rôle dans ce cadre-là. Comment rendre les données crédibles, fiables, dignes de confiance? Et ça a été dit plusieurs fois qu'il y avait un lien aussi bien avec les principes FAIR, à mon sens, surtout avec les F et les R, mais aussi avec la certification. Donc, ça a été évoqué, la certification. Et je crois que c'est important, y compris par rapport à l'acceptation, oui ou non, d'un data paper, en fonction de l'endroit où les données ont été déposées. À mon avis, ça, c'est un enjeu majeur. On est juste au début du chemin. J'ai comme souvenir aussi que la certification fait partie des objectifs du plan national pour la science verte dans le domaine de la gestion des données. Ensuite, je crois que c'était Victor qui a évoqué la question d'écosystème. Donc, tu avais laissé ça un petit peu en suspens. Écosystème, c'est peut-être un mot un peu... non, je trouve que c'est le bon mot. Il y a, pour moi, beaucoup plus qu'un article normal. Il y a une intégration par rapport au data journal et data, surtout des data paper, une intégration dans un écosystème plus large qui va des infrastructures de recherche vers les entrepôts de données des plateformes de revues, avec tout ce que ça implique, le besoin de l'interopérabilité, principe faire, ça en fait partie. Mais la question aussi, ce qui était évoqué plusieurs fois, des workflows ou des outils propriétaires ouverts. Donc, il était question de database, il était question de Pensoft. Est-ce que les outils sont libres? Est-ce qu'ils sont transposables d'un endroit à un autre? Donc, comme j'ai vu pour Pensoft, il y avait certains entrepôts, mais d'autres n'étaient pas mentionnés. Question, est-ce que leur workflow s'adapterait aussi à d'autres entrepôts? Donc, ça reste ouvert. Il y avait un exemple d'un écosystème communautaire, je crois que c'était Stéphane tout au début qui l'avait présenté, autour des data papers d'articles et de dépôts sur Zenodo. Moi-même, avec un réseau international autour de la littérature grise, je fais partie d'une communauté du même genre, sauf dans cette communauté, en plus, il y a les proceedings, c'est-à-dire qu'il y a les conférences, il y a les données, il y a une revue, et puis il y a un entrepôt qui, lui, parce que le réseau est localisé à Amsterdam, donc c'est l'entrepôt national au Pays-Bas Easy, maintenu par l'Institut Danse. Je crois que ça, ce sont des modèles qui vont se développer autour d'une thématique, autour d'un réseau, autour de certains outils reconnus, acceptés, utilisés. Question de l'impact d'un data paper. Donc là, j'ai fouiné un petit peu dans la revue de Pensoft avec l'article, j'ai regardé un petit peu l'article d'Annegret sur les BioBlitz. Donc on voit très bien comment mesurer l'impact avec l'altmetric score et les consultations. Il y a un débat, j'ai suivi ce que ça veut dire, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important, citation, oui ou non, téléchargement, ça veut dire réutilisation, qu'est-ce qu'on sait de la réutilisation et qui, etc. etc. La question que je me pose par rapport à DataPaper, c'est mais où est l'importance? Est-ce que c'est l'impact du data paper ou est-ce que c'est l'impact par rapport à l'utilisation des datasets, c'est-à-dire des données déposées? Je crois que vous faites clair là-dessus aussi par rapport à la valorisation des data papers. Donc, quand j'entends citation des data papers comme quelque chose qui devrait être évalué par rapport, par exemple, à la carrière d'un chercheur ou d'un laboratoire, etc., moi je me dis, mais data paper, en fait, ce n'est qu'une sorte d'outil qui pointe vers les données. De ce qui est important, c'est les données, ce n'est pas le data paper. Mais bon, on peut se poser beaucoup de questions et je crois qu'il y a très peu de connaissances réelles. J'ai discuté il y a quelques jours, pour tout à fait autre chose, avec des collègues d'Elsevier par rapport à Mendeley Data, un autre entrepôt de données très particulier. D'après les collègues d'Elsevier, la richesse des métadonnées n'est pas corrélée avec l'impact en termes de consultation ou téléchargement des données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. C'est ce qui, pour moi, contre-intuitif. Mais tout ce que je peux constater, c'est un enjeu, on ne sait pas réellement. L'automatisation, pareil, c'est un enjeu, notamment par rapport à l'intégration. Donc, Dataverse et d'autres permettent aujourd'hui de générer automatiquement au moins une trame pour les data papers. Question, quelle valeur ajouter du côté des humains? Et aussi, par rapport à la formalisation, la normalisation des data papers, est-ce qu'une bonne partie de l'intérêt des data papers n'est pas tout simplement aussi d'être lu par d'autres machines, par les moteurs de recherche et d'autres? L'intelligence artificielle, mais ça, je ne vais pas noter dessus, personne ne l'a évoqué, mais je crois que spécifiquement dans ce domaine-là, c'est important. L'économie de l'écosystème, il ne faut pas négliger, je l'ai déjà dit, les données ont une grande valeur économique, et c'est une partie de l'enjeu pourquoi on pousse les chercheurs à mettre leurs données gratuitement en ligne et librement. C'est dans tout ce contexte de données massives. Mais par rapport au data paper, il y a un autre enjeu. Quand on regarde le modèle économique de ces publications, CyberGeo, c'est une exception. Donc, la plupart des data papers et les data journals qu'on a étudiés l'année dernière, je ne crois pas que ça soit différent cette année, fonctionne sur le mode du Gold OA avec APC. Autrement dit, les data papers, rien que pour ça, génèrent déjà aujourd'hui du chiffre d'affaires et contribuent. À une certaine valorisation de la production scientifique. À ce moment-là, la question se pose immédiatement. Quel est le risque d'un predatory publishing dans le domaine des data papers? La question est posée, donc je n'ai pas de réponse pour ça. C'est probablement trop tôt, mais je crois que le risque est réel. Autre enjeu, je suis pratiquement à la fin, c'est le lien avec le processus, le cycle de vie. Donc la question a été posée, mais quelles données est-ce qu'il faut signaler, déposer, les données froides, comme on dit, une fois que tout est terminé, ou chaude, tiède, avec la question de versionnage, quel est le lien avec le plan de gestion, quel est le lien avec les publications, avant, après, à la place. À la place, c'est une bonne question. Donc, ça, personnellement, je me demande si à terme, une partie des articles scientifiques ne va pas être tout simplement remplacée par des data papers qui parlent des données et qui laissent ensuite la question de l'analyse, des hypothèses et tout ça en suspens. Je crois que de ce que Victor a dit, là tu as mentionné, je l'ai copié là et je l'ai entouré, la conception des données du data paper doit être simultanée. J'aurais jamais formulé ça de la même manière, mais je crois qu'au fond, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on enseigne à nos doctorants. Quand on leur dit, il faut que vous ayez votre plan de gestion dès le départ. Dès le départ. Donc, je termine par ceci. Les besoins de travailler ensemble. Donc, c'est évident quel métier, quelle fonction, quelle activité, quelle compétence. Ça va être votre travail, si j'ai bien compris, dans le groupe de travail. J'ai cru comprendre que la question est posée, mais est-ce qu'on a un rôle à jouer en tant que métier de l'information? Ma réponse, j'ai même pas besoin de réfléchir, bien entendu, parce qu'il y a une bonne partie dans cette histoire-là qui est liée à la documentation, une bonne partie dans cette histoire. Cette histoire, c'est les données, les data papers. Sont liés à la production, à l'acquisition, à l'analyse des données. Ce n'est pas seulement les chercheurs Donc, mais je crois que les data papers et tout cet environnement, cet écosystème, sans vous, ça tient pas la route. Et parler donc une fois avec les chercheurs des métadonnées et des formats et tout ça, c'est pas nécessairement de ce qu'on aime bien faire. Dernière slide, perspective. J'ai noté un certain nombre de perspectives. Augmentation des nombres de data pairs, je crois que oui, mais ça va continuer à prendre de l'ampleur. Substitution regular papers, aucune idée. Probablement oui. Mais comment faire le suivi? Parce que les data pairs aujourd'hui sont mal indexés, on ne les trouve pas nécessairement à commencer par Al. Développement des data journals, aucune idée. Il y en a très peu actuellement. Je crois que de ce qui était dit par rapport au développement des rubriques dans les revues scientifiques, je crois que c'est plutôt ça la perspective. Peut-être il y a des mega data journals, il y a chez Elsevier, Nature, ben, ils commencent à se positionner comme ça, mais aucune idée si. Mais bon, c'est une perspective possible. Voilà. On peut aussi imaginer le développement sur les serveurs de preprint ou sur HAL, à voir. Pour l'instant, HAL n'est pas fait pour, il y a très peu et ils sont mal indexés, mais ça se comprend parce que ben, ce type de documents existe depuis si peu, il y a si peu aussi en tant que nombre pour l'instant, que ce n'était peut-être pas la peine de tout prévoir tout de suite. Ce que je crois plutôt comme une perspective très très probable qu'il y ait un rapprochement entre les plateformes publication et données avec une intégration verticale, ce qu'on peut voir dans les grandes entreprises de l'information comme Elsevier. Je crois que c'est plutôt ça qui va se passer aussi dans le public, au niveau national et international. Et puis, bah, la dernière question, pour moi, ouverte. Est-ce que ça concernera tous les domaines scientifiques? Est-ce que tous les domaines scientifiques vont évoluer dans le même sens? Quitte et SHS, on verra bien. On verra bien dans les toutes prochaines années. Je crois que ben, le point de départ en France, mais aussi au niveau international, ben, c'était il y a à peu près 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, bon, on verra comment ça va évoluer. Voilà.
Joachim, merci beaucoup pour cette analyse qui ouvre tout un champ de questions. Alors, nous sommes arrivés normalement au terme de notre timing. Pour ceux qui ont encore un peu de courage, je pense que tous ces échanges méritent qu'on reste encore un petit peu ensemble pour en débattre. Hein. Et je vous propose donc de poursuivre encore pendant une dizaine de minutes sur les différentes interventions, aussi bien celles de Joachim que revenir sur celles que vous avez déjà entendues. Si Johanna et Maurice, vous avez capitalisé aussi ces questions, c'est à vous.
Oui, j'en ai quelques-unes qui ont été posées précédemment concernant un petit peu le pendant des data papers avec les publications scientifiques. Donc, il y a une question qui disait, est-ce que publier un data paper peut potentiellement pénaliser la publication ultérieure d'un article classique qui analyse les données du jeu de données publié dans le précédent data paper? Je répète, est-ce que publier un data paper peut potentiellement pénaliser la publication ultérieure d'un article classique qui analyse les données du jeu de données qui est publié dans le data paper, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité entre data paper, publication du data paper des données et une publication, un article classique qui analyse les données dans une publication scientifique? C'est ce que je comprends, quoi.
Je ne sais pas si Joachim, tu veux répondre ou pas. Je pense que dans le chat, un certain nombre de réponses ont été
Oui,
apportées.
ouais. Honnêtement, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je crois que ben, ça dépend des revues et ça dépend aussi de la nature des data. S'il y a un data paper qui contient déjà, j'en ai vu, qui sont très longs, qui contiennent déjà des débuts d'analyse et tout ça, moi je me dis, mais c'est plutôt du point de vue chercheur, à quoi bon ensuite de publier quelque chose du même genre une deuxième fois?
Peut-être pour reprendre quand même malgré tout la définition qui est bien sûr non stricte, hein, non définitive, mais un data paper n'analyse pas forcément les données.
Oui, mais la
Il
réalité est différente.
Exactement.
On
Donc,
a regardé les revues, on a regardé les contenus, et bon, on a vraiment tout trouvé, on a trouvé des data papers avec plus de 100 pages. Voilà.
Oui. Une autre question, est-ce que vous exigez que le data paper a publié dans votre revue, alors si ça concernait, doit être lié à un article déjà publié ou encore en publication, on tourne encore autour de ça, quoi. Est-ce qu'on exige que le data paper a publié dans la revue doit être lié à un article déjà publié ou encore en publication?
Alors, je me permets de reprendre la parole. En tout cas, pour notre revue Cybergéo, non, il n'y a absolument pas de nécessité de lien entre un data paper et puis un article. Mais il est vrai que assez souvent, dans les data papers que nous avons publiés, il y a un début d'analyse. Je pense que les chercheurs et les ingénieurs qui publient le data paper ont à cœur de montrer qu'ils ont déjà saisi l'intérêt, l'importance scientifique de la base de données qu'ils ont construite, et ils veulent en livrer rapidement la substantifique moelle avant d'en permettre d'en autoriser la réutilisation pour d'autres objectifs.
Je peux peut-être ajouter, il y a une deuxième raison que j'ai vue aussi dans un data paper récemment, c'est de produire un début d'analyse pour montrer aux lecteurs et aux réutilisateurs potentiels l'intérêt, de dire, OK, voilà, c'est ça qu'on peut faire, on l'a déjà fait, il y a un potentiel.
Oui.
Oui, il reste à mobiliser les chercheurs pour effectivement une culture à faire passer pour publier dans des data papers, je pense. Une dernière question, peut-on écrire un data paper sans pouvoir donner accès aux données de base, par exemple pour des données confidentielles? J'ai jeté un fond
Pour nous, la réponse serait plutôt non.
là. Oui, je serais d'accord aussi avec ça.
Mais voilà,
Donc
une
ça
part
signifie.
importante étant la construction. Oui, non, 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 je pense que c'est toujours non. Même si on évalue la construction, la qualité de la construction des données qui sont proposées au partage, si on n'a pas les données initiales, c'est assez difficile de vérifier que cette construction a été bien faite et que les résultats qui en sont tirés sont pertinents.
D'accord. Voilà, je n'ai pas d'autres.
Est-ce que Johanna, tu as ou d'autres souhaitent revenir sur les interventions précédentes?
Une dernière que j'avais oubliée. Ne faudrait-il pas associer les revues de data paper avec des revues scientifiques pour faciliter justement cette séparation? On tourne toujours autour de la même question, hein, entre ce qu'on met dans un cadre et ce qu'on met dans l'autre, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des revues scientifiques qui proposent également des revues data paper pour justement faciliter la part respective qu'on va trouver dans chacune?
Donc des rubriques data paper dans les revues académiques, tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Cybergéo en est un exemple. Un de ceux qui traite davantage de ma discipline, donc de l'archéologie, où il y a une revue qui s'appelle Internet Archaeology, qui est une revue soutenue par l'Université de York, hein, qui publie de façon tout à fait intégrée des papiers scientifiques et des data papers, et qui ont l'avantage également d'être en lien direct avec un entrepôt de données qui s'appelle ADS, également soutenu par York, hein, et qui donne justement aussi un panel d'intégration à la fois entrepôt, publication scientifique et publication de data paper. Donc je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant dans les revues, alors qu'ils ne le sont peut-être pas toutes natives avec cette dualité, qui s'y mettent progressivement. Plus peut-être que la croissance de ces rubriques au sein de revues académiques est sans doute un peu plus rapide que l'émergence de strict data journals.
J'aurais une question à propos de la montée de l'intelligence artificielle et son éventuelle corrélation avec l'augmentation de l'intérêt des data papers. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est vrai? Est-ce qu'on voit une augmentation de l'intérêt des data papers avec justement la montée de l'IA?
J'ai fait cette remarque-là à partir des études qu'on a trouvées sur les data journals et les data papers. Donc, c'est par rapport à ça, à commencer par les études issues de ce que fait Pensoft, mais ce ne sont pas les seuls. C'est que des travaux pour standardiser et de cette manière normaliser et très formaliser ces types de documents. Et plus que c'est formalisé, plus que c'est normalisé, plus que c'est lié à des normes comme ISO pour les données géographiques, pour les langues, etc. Et il y a plein d'autres normes de ce genre-là. Plus que c'est standard, plus que c'est exploitable par des machines. Les machines, ça veut dire intelligence artificielle. C'est-à-dire que les machines peuvent lire. Quel intérêt ont certaines données, où les trouver, avec quel droit, à partir des data papers. Je rappelle juste que les principes faits au départ, l'objectif principal, c'était la machine readabilité des données déposées. Et je crois qu'il faut pas voir ça comme quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. On pourrait se positionner comme être d'accord ou pas d'accord. Je crois que c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Il suffit de regarder ce que font les grands groupes avec les données, comment ils se positionnent, ce qu'ils créent autour sous forme de moteur de recherche, sous forme d'indexation. Concernant les données et les publications liées aux données, pour avoir une idée du potentiel.
Euh, 12h43, vous avez été patients tous, toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire, de tenir toute cette matinée. Si vous me permettez, je vais conclure ces échanges pour vous rappeler dans un premier temps que l'enregistrement sera accessible donc d'ici quelques temps à partir du site du GT. De même que le chat, toutes les questions posées, leurs réponses seront capitalisées et on essaiera de créer une foire aux questions du même genre que l'hackathon. Les actions vont bien sûr être poursuivies par le groupe de travail qui travaille actuellement d'ailleurs sur la finalisation d'un guide pratique qui présente les différentes actions faites par les réseaux autour de la gestion des données. C'est un guide qui reprend les 7 étapes définies dans le document cartographie des actions des réseaux métiers autour de la gestion des données proposé en 2017. Avant de vous quitter, je voudrais absolument remercier les intervenants et les intervenantes qui ont parfaitement répondu, je crois, à l'esprit et aux objectifs de ce webinaire. Un grand merci aussi pour le GRICAD qui a mis à disposition ses moyens techniques, le lien qui nous a permis d'avoir un webinaire qui s'est déroulé sans accroc, je l'espère également du côté des utilisateurs, mais en tout cas tout s'est très bien passé. Et merci bien sûr à toutes les personnes qui se sont connectées. À titre d'information, vous avez été au plus fort de votre participation, plus de 190 à vous connecter. Donc techniquement, ça a tenu, c'est très bien. Voilà, encore merci. Et je pense que ces débats, toutes ces questions qui n'ont pas forcément eu toutes ces questions qui n'ont pas eu de réponse, pourront alimenter peut-être d'autres actions ou d'autres façons au sein du GT ou ailleurs d'avancer, en tout cas pour le même but, valoriser les données, les rendre accessibles et être potentiellement réutilisables. Je vous remercie.
Et on te remercie Stéphane d'avoir organisé toute la logistique et le contenu de ce webinaire.
Vous pourriez peut-être activer votre caméra pour que toute l'équipe puisse apparaître quand même. Apparaître auprès des participants.
Le rescapé qui sont encore là.
Voilà. Donc, Johanna, Maurice, qui ont assuré la modération du chat, qui n'était pas une mince affaire non plus, mais qui permettait de jouer à plusieurs mains, ce qui était bien. Voilà.
Ouais, c'était en tout cas très enrichissant. On en ressort avec beaucoup de questions, mais poser les bonnes questions, c'est profiler les réponses déjà.
Merci encore et à très bientôt.
Merci à tous. Au revoir. Ciao.
Au revoir.